France Info.
Bonsoir à tous, les informés de France Info, même au mois d'août, jusqu'à 21h. Nous allons parler d'agriculture ce soir avec ces agriculteurs français qui veulent vivre de prix et non de primes. C'est un slogan qu'on entend aujourd'hui parce qu'Emmanuel Macron a reçu les agriculteurs, mais c'est un slogan que l'on entend malheureusement depuis des années, peut-être des décennies. Alors, y aura-t-il un phénomène Macron sur l'agriculture française? Nous en parlerons d'ici 21h. Nos informés aujourd'hui avec Anthony Bélanger, chroniqueur pour France Inter, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Mégo Terzian, président de Médecins Sans Frontières, Olivier Malnuit de Technicart et Grand Seigneur, et Rachel Binas de Valeurs Actuelles. Bienvenue à tous les cinq. Les informés, nous allons commencer avec notre invité spécial aujourd'hui, Mégo Terzian, donc pour Médecins Sans Frontières France que vous représentez. Il y a quelques jours, l'Italie a demandé aux ONG qui font du secours en mer de signer un code de bonne conduite. Parmi les mesures qui sont imposées dans ce code, il y a l'interdiction de pénétrer dans les eaux territoriales libyennes, être tout le temps localisable et également la présence d'un policier à bord. Pourquoi Médecins Sans Frontières a-t-elle refusé de signer ce code de bonne conduite, Mégo Terzian ?
Parce qu'on estime qu'un code de conduite ne peut pas remplacer une loi. Donc il y a une loi maritime internationale qui existe. Nous, on respecte depuis 2 ans cette loi. Et on a estimé qu'un code de conduite ne pourra pas remplacer la loi. S'il y a un code de conduite à faire, pour nous, il faut que ces États-là, Italie et les autres États européens, il faut qu'ils fassent un code de conduite pour eux-mêmes et pas pour des ONG.
Combien de bateaux avez-vous en Méditerranée ?
Nous, on a un seul bateau qui s'appelle le Prudence et on coordonne avec une autre organisation qui s'appelle SOS Méditerranée avec un deuxième bateau qui s'appelle Aquarius.
Aquarius. Alors, ce code de bonne conduite, il pose une question. Quelle est la limite, quelle est la frontière entre de l'aide humanitaire, aider ces migrants qui parfois sont en situation de grand danger en pleine mer Méditerranée, et puis cette complicité avec les passeurs?
Bon, nous, de toute façon, on ne circulait pas dans les zones maritimes libyennes.
D'accord. Vous arrêtez toujours à la limite.
Oui. Et si, par hasard, on est obligé à circuler, on prend l'autorisation du centre de coordination des secours maritimes basé à Rome. Donc, c'est eux souvent qui nous appellent pour bouger et sauver des gens sur des bateaux de fortune. Donc, de toute façon, nous, on respecte les règles. On ne bouge pas sans l'aval de ce centre de coordination basé à Rome. Et voilà. Et
mais finalement, le fait que des passeurs sachent qu'il y a des bateaux comme le vôtre en mer Méditerranée, est-ce que ça n'incite pas les passeurs à mettre des embarcations toujours plus pourries, avec toujours plus de monde à bord ?
Peut-être. Je ne peux pas garantir, confirmer ou infirmer. C'est fort possible, mais on n'est pas les seuls. On est une petite dizaine d'ONG qu'on travaille. Et 65% des populations secourues sont effectuées par l'armée italienne.
Rachel Binas, Valeurs Actuelles.
Vous posez la question justement de la frontière entre le travail des passeurs et le travail des ONG. En effet, elle se pose. La frontière est extrêmement ténue, on le sait. On sait qu'un certain nombre, par exemple, d'ONG travaillent aujourd'hui avec les passeurs. Je ne parle pas, bien sûr, de
Médecins
Sans Frontières. Il n'y a rien de complotiste derrière ça. Je pense notamment à une déclaration du procureur de Catane en Sicile qui a expliqué « Nous avons des preuves flagrantes qu'il y a des contacts directs entre certaines ONG et les trafiquants d'êtres humains situés en Libye ». Il y a par exemple des coups de fil entre les ONG et la Libye. On sait également que des émetteurs de bateaux sont tout d'un coup brouillés, des phares qui suivent le chemin
des
bateaux.
Des signaux lumineux, ouais, parfois.
Exactement. Mmh. Et par exemple, l'ONG maltaise MOAS a été épinglée et pointée du doigt comme étant une espèce de taxi, en fait, entre les deux rives.
Anthony
Donc, c'est
Bélanger.
Une réalité qui existe.
De l'air sceptique, Anthony Bélanger.
C'est pas ça, c'est que sur le. On peut pas non. Enfin, le problème, c'est qu'il y a en mer des milliers de gens qui attendent d'être secourus. Ok. Je comprends qu'il. Enfin, je veux bien croire qu'il existe une ou deux moutons moutons noirs qui font, je sais pas, qui se disent ONG, qui servent de taxi en fait pour
les passeurs.
Pour les passeurs. Mais je veux croire que l'immense majorité des ONG qui travaillent sur place, d'une part, c'est pas à elles de faire le tri entre ceux qui seraient d'une espèce de calcul des passeurs pour faire le moins de kilomètres possible avec leur bateau et confier le plus de migrants possible. Elles n'ont pas à faire ce tri-là. Et surtout, ce tri-là est absolument impossible à faire.
Et souvent, c'est vrai que cette notion de tri, c'est quelque chose qui est assez nouveau et assez prédominant depuis quelques jours avec la politique d'Emmanuel Macron et
avec les fameux hotspots en limite.
Les hotspots et de dire on va trier les demandeurs d'asile des migrants économiques.
Ouais, c'est-à-dire mettre des hotspots, c'est-à-dire en fait des fonctionnaires français en Libye au milieu du chaos libyen, je leur souhaite bonne chance. Maintenant, c'est pas tout. Le problème est est-ce que c'est assez aux ONG de faire le tri. La marine italienne ne le fait même pas le tri. C'est-à-dire la marine italienne qui, vous le disiez effectivement, sauve à peu près 60%, enfin récupère 60% des migrants qui passent les eaux territoriales libyennes, ne le fait pas ce tri, ramène tout le monde en Sicile et ensuite fait le tri en Sicile au calme. Les ONG n'ont pas à le faire et il n'y a aucune raison de présupposer que les ONG dans leur ensemble feraient ce type de travail. Enfin, c'est scandaleux.
Où est-ce que vous accompagnez ensuite les personnes que vous sauvez en mer?
C'est le centre de coordination italienne qui décide, qui nous indique
où amener. Donc c'est pas vous qui décidez où vous les ramenez?
Non, bien sûr que non. C'est le centre de coordination.
Mais toujours en Italie?
Oui, toujours en Italie.
Jamais en Libye?
Non, jamais en Libye.
Pourquoi?
Ils nous ont jamais demandé de ramener les gens en Libye. On fera pas de toute façon, vu le chaos qui existe dans ce pays.
Ils quittent la Libye. La Libye est un pays qui est un trou noir pour les ONG comme pour l'aide humanitaire. Il n'y a pas de raison de ramener des migrants qui veulent fuir la Libye et qui les ont fui vers l'endroit qu'ils ont fui. Enfin,
les informés de France Info continuent. Il est 20h10. Toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
La crise des œufs contaminés s'étend à la France et au Royaume-Uni. 30 000 œufs et 200 tonnes de vos produits contaminés au fipronil livrés en France. L'insecticide vient des Pays-Bas. Il s'agit d'une molécule utilisée pour éradiquer le pou rouge sur les poules. Un rassemblement cet après-midi à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis en mémoire de Shaolin Zhang. Un an après l'agression de cet homme de 49 ans d'origine chinoise, décédé après un vol violent à caractère raciste. Un rassemblement de dizaines de personnes. Un homme a poignardé une employée de banque place Fourneyron dans le centre-ville de Saint-Étienne ce matin. L'homme d'une trentaine d'années pourrait être un client de l'établissement. Il a ensuite pris la fuite sans formuler de revendication. Christophe Lemaître s'est qualifié pour les demi-finales du 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Londres en prenant la troisième place de sa série. Les demi-finales sont programmées mercredi soir.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info jusqu'à 21h avec Rachel Binaz, Valeurs Actuelles, Olivier Malnuit, Technique Art et Grand Seigneur, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts et Anthony Bélanger, chroniqueur à France Inter, et Mégot Terzian qui est donc le président de Médecins Sans Frontières France. Nous parlons de ce durcissement en Méditerranée. Alors, durcissement du discours, des actes aussi pour endiguer la vague migratoire. L'Italie a... Oui, vous vouliez rebondir.
Non, pardon, endiguer la vague migratoire, ça n'a aucun sens.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que déjà, c'était des opérations qui ont changé. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était l'Europe qui assurait le sauvetage en mer. Il y a eu un changement de pied et du coup, il a fallu que des ONG, il faut les remercier ici, notamment Médecins Sans Frontières, SOS Méditerranée et d'autres.
Se substitue
à la carence de l'Europe, à Marine Nostrum exactement, et agissent par devoir humanitaire. Elles font le boulot que devrait faire notre armée de solidarité, de dignité humaine. Donc déjà, il faut les remercier et pas les traiter comme des criminels. Et quant à dire endiguer la vague migratoire, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas empêcher des gens qui sont désespérés de prendre la mer. Donc soit on organise des voies d'accueil légales, c'est ce qu'avait commencé à dire Emmanuel Macron, le problème, c'est qu'il reste dans les beaux discours, tout le temps, depuis 100 jours. Soit on fait ça, soit on se trompe en disant qu'on va empêcher et ça va conduire à plus de morts.
Mégot Terzian, vous êtes d'accord là-dessus? Ça ne sert à rien de vouloir endiguer la vague migratoire?
Oui, je suis 100% d'accord. ce code de travail est instauré pour empêcher les humanitaires de faire le travail.
Le code de bonne conduite italien ?
Oui, le code de bonne conduite italien. C'est pour nous empêcher de faire nos travail, pour nous criminaliser. Ils criminalisent aujourd'hui les gens qui tentent d'aider, des ONG ou des individus, en France ou ailleurs. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable.
Rachel Binas.
Ce chantage aux émotions ne peut pas tenir, en fait.
Établir comme ça,
c'est ce que vous venez de faire en expliquant grosso modo qu'il faudrait pratiquement créer une espèce de passerelle entre les deux rives de la Méditerranée. C'est pas possible. Déjà pour une raison assez simple, les migrants qui se présentent en fait à nos portes ont des caractéristiques et des statuts extrêmement différents. Il ne s'agit pas simplement et dans la majorité de personnes pouvant bénéficier du statut de réfugié. Il s'agit en large partie de personnes qui en fait cherchent de meilleures conditions de vie. Et à ce titre, on peut pas comme ça accueillir tous les migrants qui voudraient avoir des conditions de vie un peu plus confortables. C'est pas quelque chose qui est possible. Et je crois même que c'est dangereux.
Et que ça ne,
et je crois même que c'est dangereux.
Mais du coup.
Et que ça ne servait, et c'est que ça ne sert pas non plus les ONG, et les militants, quels qu'ils soient, parce qu'en brouillant comme ça les différences de statut entre réfugiés et migrants économiques, on prend le risque que les États eux-mêmes reviennent sur leur statut de réfugiés et le rendre peut-être encore plus difficile d'accès.
Là où vous avez raison, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs types de migration.
Antoine
et en plus,
vrai.
Plusieurs types de pays concernés. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi que ce ne sont pas forcément des pays en guerre qui traversent la Méditerranée. Cela dit, je voudrais quand même ramener les choses à des choses factuelles. C'est-à-dire, quand on dit vague de migration, ça fait tout de suite très peur. Vous parlez de chantage à l'émotion. Utiliser des termes pareils, ce sont des termes qui font peur. Or, on sait qu'il y aura cette année pas plus de 200 000 migrants qui arriveront, migrants, réfugiés et migrants confondus, qui auront traversé la Méditerranée pour arriver en Italie. 200 000, c'est rien par rapport aux millions qui avaient été accueillis en 2015 et qui étaient passés par la Grèce et arrivés en Allemagne et en Autriche. C'est rien. 200 000, on a parfaitement la possibilité de gérer. Et quant aux ONG, laissez-moi terminer. Quant aux ONG, elles en sauvent 30 000 par an.
Mais il y a moins de passages qu'avant ?
Oui, en tout cas, même période de temps par rapport à l'année dernière. Cette année, il y a eu le passage jusqu'à maintenant à peu près 100 000 personnes qui sont arrivées principalement en Italie. L'année dernière, même période de temps, 200 000 personnes sont arrivées principalement en Italie. Il y a moins de passages.
Olivier Manuit, on vous voit songeur.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat ?
C'est un vaste sujet, très grave et très complexe. J'avais envie de demander à notre ami de Médecins Sans Frontières, qu'est-ce que vous disent les Italiens pour vous imposer la présence d'un policier armé sur les bateaux. Quelle est sa fonction ?
Il n'y a pas de clarté pour le moment. C'est l'une des raisons qu'on a refusé de signer le code de conduite, parce qu'il y a beaucoup de flou. Donc on ne sait pas les raisons. Moi, j'estime, ça c'est mon avis personnel, c'est encore plus, en montant dans un bateau avec des armes, c'est encore plus intimider des populations qui ont besoin d'assistance.
Mais il le justifie par un problème de sécurité à l'intérieur des bateaux, comme si
il n'y a pas une justification.
Est-ce que c'est pas pour justement parce que peut-être d'autres ONG n'ont pas été réglo et ont eu parfois ce comportement limite avec les passeurs, peut-être. Est-ce que c'est pas justement pour pouvoir remettre de l'ordre là-dedans et pouvoir avoir un œil sur ce que font les ONG ?
J'ignore les raisons. Oui, j'imagine c'est pour nous contrôler, pour nous punir, pour nous criminaliser.
Est-ce qu'il y a eu des abus de la part d'autres ONG ? Attendez, je voudrais juste savoir, mais Gauthier, est-ce qu'il y a eu un abus de certaines ONG ?
Il faut quand même préciser que le bateau Aquarius, pour ce que je sais, est en constant dialogue avec l'armée italienne, et que justement, c'est même l'armée qui dit, allez sauver, on a repéré un bateau en détresse,
etc. Il y a une collaboration,
est-ce
qu'il y a eu des abus de la part d'autres ONG?
Je ne peux pas dire, parce que nous, on n'a pas observé ça. Après, il faut que le gouvernement italien prouve que l'ONG allemande a fait des abus.
Qui a mis le bateau sous séquestre, là.
Ouais. Oui. Ouais.
Moi, je voulais réagir parce que effectivement, on traite les solidaires comme des criminels. C'est exactement le cas aussi avec Cédric Héroux, qui a sauvé en gros des migrants en détresse dans la vallée de la Roya et qui est poursuivi demain en appel pour en gros être délinquant solidaire. Donc il faut en finir avec ça. Et c'est pour ça que je disais, il faut organiser l'accueil. Anthony Bélanger a tout à fait raison. Quand on parle de 200 000 et même 1 million à l'échelle de l'Union européenne,
nous sommes 500
millions. C'est organisable. C'est pas une crise migratoire qui a actuellement. C'est une crise de solidarité. Moi, j'habite depuis longtemps dans le 10e arrondissement, qui est un carrefour pour aller vers, avec la gare du Nord vers, vers Calais. On ne sait pas gérer Calais, et pourtant, on parle de moins de 10 000 personnes. Ça s'organise. Et cette crise, elle dure depuis longtemps, puisque depuis 2001, les Afghans passaient déjà par là. Donc, on devrait apprendre et tirer les leçons de, du passé, organiser cet accueil et répartir l'effort entre les pays européens.
Rachel Binas.
Cet accueil n'est pas pour le moment est très mal organisé.
C'est vrai.
C'est aussi extrêmement compliqué. Hein. Y a beaucoup de critiques, mais les solutions proposées sont pas non plus extrêmement nombreuses. La difficulté aussi, c'est que certes, alors peut-être qu'il y a un petit peu moins de migrants qu'il y en avait l'année dernière, d'accord, mais il y a déjà des migrants qui sont présents et qu'il nous faut accueillir, qu'il nous faut intégrer, assimiler, contrairement à d'autres pays comme la Jordanie ou le Liban, qui en effet en accueille énormément. Ça se compte en millions. Mais il faut voir aussi l'accueil qu'on leur réserve. Oui, en effet, on pourrait accueillir hein, 1 million s'il s'agit de les parquer dans, dans des camps, de leur mettre des sacs de céréales et de leur expliquer que c'est maintenant ici qu'ils vont vivre. Or, ce n'est pas le projet européen, ce n'est pas non plus le projet de la France. Le projet européen, le projet de la France, c'est d'intégrer et d'assimiler ces populations.
On rentrera sur un débat sur les mots plus tard. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur ne veut pas mettre de point d'eau à Dunkerque, à Calais, pardon.
Non, c'est pas le, si, c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est la maire de Calais qui, s'y refuse.
C'est bien le ministre de l'Intérieur qui a été condamné et désavoué par le
Conseil
d'État.
Il a été condamné, mais il n'a pas dit qu'il ne respecterait pas cette décision. C'est la maire de Calais qui, justement, ne veut pas la respecter. Or, aujourd'hui, la question, c'est celle de l'intégration, pour éviter de prononcer un mot qui vous fâche. Et, rien ne dit aujourd'hui que les éléments sont réunis pour qu'on puisse le faire. On parle de crèches, d'éducation et d'enseignement du français.
On va conclure, Mégo Terzian, parce qu'aujourd'hui, l'aide en Méditerranée est menacée par les Italiens.
Pour le moment, il n'y a pas des conséquences. On a continué notre travail cette semaine.
On ne vous tord pas le bras.
Non, non. Donc, alors, il faut suivre et voir quelles seront les conséquences de ce code de
conduite. On conclut, Anthony Bélanger.
Oui, j'aurais juste rappelé que les Italiens sont dans une situation impossible, parce que d'une part, ils ne peuvent pas aborder sur les côtes syriennes, ils ne peuvent pas mettre leur bâton en blocus, ce qu'ils avaient voulu faire d'ailleurs dans les jours précédents, mais le général Haftar le leur a interdit. C'est-à-dire que, grosso modo, ils ne peuvent pas approcher les côtes libyennes. Et deuxièmement, on leur demande avec un manque de moyens criant de barrer l'entrée ou du moins de trouver des solutions pour ces dizaines de milliers de migrants qui sont sur des bateaux de fortune. Je trouve que les ONG font un travail remarquable et qu'on n'a pas à les critiquer ni à même les criminaliser, mais qu'il ne s'agit encore une fois pas d'une vague de migration, je le rappelle.
Merci beaucoup Mégo Terzian, président de Médecins Sans Frontières France, d'être venu dans les informés de France Info qui vont continuer avec nos autres débats ce soir. Les agriculteurs, comment leur procurer un prix plutôt que des primes, c'est dans les prochaines minutes des informés de France Info, 20h20. Toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
Le soleil a rendez-vous avec la lune. Si vous levez les yeux au ciel, vous verrez peut-être une éclipse lunaire partielle. Elle a débuté il y a 1 heure et doit se poursuivre jusqu'à 21h18. Une éclipse incomplète qui doit être particulièrement visible dans l'est de la France. 13 lots contaminés au fipronil livrés à 2 établissements de fabrication d'ovoproduits de la Vienne et du Maine-et-Loire au mois de juillet. Pour l'un des établissements, on parle de 30 000 œufs et pour l'autre de 200 tonnes d'ovoproduits. Les œufs retirés sont suspectés de contenir du fipronil utilisé au mépris de la réglementation européenne pour éradiquer le pou rouge dans les élevages. L'Élysée précisera dans les prochains jours le rôle public de Brigitte Macron dans un document sur lequel ses services travaillent depuis plusieurs semaines. Une pétition contre le statut de première dame pour Brigitte Macron a réuni plus de 240 000 signatures en 2 semaines sur Internet. Christophe Lemaître s'est qualifié pour les demi-finales du 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Londres en prenant la 3e place de sa série. Les demi-finales sont programmées mercredi soir.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info avec cette appli d'alerte attentat SAIP qui est, semble-t-il, inefficace et qui doit être rapidement corrigée. C'est la conclusion du rapport du sénateur Jean-Pierre Vogel. Cette appli a été créée, vous en souvenez peut-être, dans la précipitation après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Autour de cette table des informés, Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts, Anthony Bélanger, France Inter, Olivier Malnuit, Technique Art et Grand Seigneur, et Rachel Binas de Valeurs Actuelles. Est-ce que, parmi vous quatre, certains ont cette appli.
Mais personne, non?
Non, vous non?
Non,
Philippe Bélanger, Julien Bayou non plus.
J'ai appris qu'elle existait quand on m'a dit
qu'elle était efficace. Moi aussi. Olivier Malny.
Ah, moi, le problème, c'est que je n'ai aucune appli.
Ah bon, d'accord.
Comme ça, c'est j'ai celle-là.
Sauf l'appli Technicart, peut-être même pas. Et Rachel Binas, vous l'avez
pas? J'ai même pas de smartphone.
Vous l'avez?
Oh là là.
Comme non, c'est justement, c'est le cœur du problème.
C'est réac, non? C'est vous, les
gars. Sébastien Pietrasanta, ancien député, rapporteur du projet de loi sur la lutte contre le terrorisme, a commenté cette information sur France Info. 900 000 personnes ont téléchargé l'appli en un an. C'est beaucoup pour une appli, mais c'est très peu à l'échelle de la population.
Il faut que les citoyens prennent aussi conscience qu'ils ont aussi un rôle à jouer en matière de lutte contre le terrorisme. Et le fait de pouvoir télécharger une simple application est utile aussi pour se protéger soi-même et protéger les siens, protéger les autres. Et donc, c'est, en téléchargeant cette application, c'est aussi lutter contre le terrorisme.
Attention. Et donc, cette application, elle a fait son premier échec avec les attentats de Nice, puisque l'alerte avait été lancée très très tard.
Mmh. Est-ce que ça a un sens aussi.
Ouais, les Champs-Élysées, mais est-ce que ça a un sens finalement, une appli alerte attentat?
Quelquefois, on a presque l'impression que l'État, c'est un peu oui-oui au pays d'Internet. Hein, parce que, alors, tous ceux qui, je sais pas, qui a décidé de faire une appli spécialement pour Internet, pour les smartphones,
c'est la direction générale de la sécurité civile.
Oui, enfin, qui s'est jamais posé. Il y a personne de moins de 25 ans dans leur équipe pour leur expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une appli, il faut avoir envie de la télécharger, il faut avoir envie de l'utiliser. C'est à la fois ludique et intéressant.
Mon cher Anthony,
c'est
vous posez la question, soit SMS, soit appli. À l'étranger, c'est beaucoup des alertes SMS.
Mais oui, c'est
il y a une norme internationale qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Cell Broadcast System, ouais. Quelque chose comme ça, qui permet à n'importe qui dans une zone distincte couverte par les antennes relais de recevoir un SMS prioritaire, c'est un SMS qui passe au-dessus.
Donc en fonction de la localisation, en fonction de l'endroit où
voilà,
vous
c'est ça,
repère
c'est
les antennes relais
c'est
en fait.
C'est très efficace. L'année dernière, les
Et pourquoi on l'a pas fait?
C'est cher, très cher.
Parce que cette appli a été faite dans l'urgence, ça semblait être une bonne idée. La mauvaise idée de la bonne idée, c'est que 58% des Français ont un smartphone, mais ouais. Les autres n'ont pas de smartphone.
Et
que
comme Rachel.
C'est.
Ah bon
mais je pense que le gouvernement a privilégié l'appli parce que l'appli permet de raconter autre chose que ce que raconte un SMS. Il y a énormément de choses.
Ça permet de mettre de la formation, de la pédagogie,
ce qui est
etc.
Oui, oui. Ouais. Et ça part d'une bonne idée.
Ce qui est fascinant, c'est qu'on est les seuls à avoir eu cette très mauvaise idée. C'est-à-dire que personne en Europe, enfin moi, pour bien connaître les polices espagnoles et les polices britanniques, elles ne communiquent absolument pas par appli. Elles communiquent par SMS, elles communiquent par leur fil Facebook.
Aujourd'hui, on communique par SMS.
Ou leur fil Twitter. Ouais. Et que donc, d'ailleurs, la police française a fait la même chose au moment de l'attentat, je crois, sur Paris, aux Champs-Élysées. Ils ont immédiatement communiqué sur leur fil Twitter. Alors, ce qui était beaucoup plus efficace que n'importe quelle appli.
Oui.
Par exemple, les New Yorkais, il y a un an, ont reçu tous un SMS d'alerte concernant un terroriste que recherchait la police.
Oui.
Ça a été extrêmement efficace pour la police puisque cette personne a été interpellée en 3 heures.
Mais
l'alerte a été très critiquée par les New-Yorkais qui ont estimé qu'elle avait généré un mouvement de panique inutile par rapport à l'interpellation d'une personne. Donc, on sait que les transmissions d'alerte par SMS sont très efficaces, mais elles ne sont pas...
Elles sont parfois contre-productives.
Elles ne sont pas sans risque en termes de panique.
Pardon. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de l'alerte enlèvement, qui finalement est un système qui fonctionne
assez bien,
s'appuie sur une foule de réseaux, pas uniquement... d'ailleurs, il n'y a pas du tout SMS et pas du tout appli, finalement, sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
Oui, on a pu constater que dans les premières minutes heures suivant un attentat, enfin disons les premières minutes, la première demi-heure, ce qui se passe, c'est que les gens prennent d'assaut Facebook et ouvrent une page généralement dédiée et commencent à échanger des informations. C'est d'ailleurs, et tout le monde s'y plonge parce que le bouche à oreille, y compris sur smartphone, se fait, et c'est cela que se recueille l'essentiel des informations. Je pense que, donc, si vous voulez, il n'y avait aucune raison par une appli de chasser le naturel qui consiste à aller sur Facebook, sur Twitter, éventuellement sur les médias traditionnels, et à s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger.
Julien Bayou.
Oui, bon, moi je constate que cette application ne marche pas, elle partait d'un bon sentiment, il faut la revoir.
Combien de millions d'euros, le bon sentiment?
Oui, c'est possible, oui, c'est certain. C'est sûr que le réflexe principal que moi j'ai déjà expérimenté, c'est plutôt
les réseaux sociaux.
Ce que Facebook appelle le safety check, et qui fonctionne,
c'est cette
qui
page
fonctionne
Facebook
bien.
Pour savoir si nos proches sont en sécurité ou pas.
Voilà, et pour se signaler soi-même en sécurité.
Oui.
Alors, juste une chose, les gens qui travaillent sur cette appli et sur ces systèmes d'alerte sont peut-être pas totalement idiot. Ah bon? Je pense que le système Amber de type alerte enlèvement d'enfants, disparition d'enfants, il est à l'étude, mais c'est pareil. On ne balance pas une alerte nationale sur tous les écrans sans conséquence. Tout est une question de dosage de la gravité de la menace, et je pense qu'ils n'ont pas trouvé la parade encore. À quel moment on peut envoyer sur tous les écrans de France, télé comprise, et aussi les spots radio, une alerte de type alerte enlèvement qui est déjà qui est extrêmement efficace, mais
Rachel Binet.
Les réseaux sociaux et la télévision ne sont pas les meilleurs vecteurs, en fait, parce qu'il faudrait adresser à des populations qui sont souvent mobiles. Et on l'a dit, l'application, c'est un fiasco total pour les raisons. Alors certes, c'était moins cher pour le gouvernement.
Et pourquoi la télé et Twitter, c'est pas bon, alors?
Parce que les réseaux sociaux. Des gens déjà se déplacent, n'ont pas tous un smartphone. Il n'y a pas que moi qui n'en ai pas.
Ouais.
Et parce qu'en plus, la localisation n'est pas toujours mise à jour sur les réseaux sociaux. Israël, depuis des années, fonctionne avec les SMS. Des SMS qui, justement, on l'a expliqué,
en fonction du point relais,
savent où se trouvent les populations. On peut cibler donc les populations et leur envoyer un message qui est différent en fonction du lieu où elles se trouvent. Par contre, l'inconvénient, entre guillemets, mais il va falloir passer par là, c'est le coût. C'est beaucoup plus important qu'une application.
C'est plus intrusif aussi.
Julien Bayou, pour conclure. Là, on est sur l'application ou les SMS. En fait, il faut aussi s'habituer, malheureusement,
à vivre avec les attentats,
ce risque. Moi, j'étais petit quand c'était la vague des attentats de 1995, j'avais 15 ans. Ça a duré un certain temps. Et là, c'est très lié, évidemment, à Daesh qui perd du terrain et donc des attaques désordonnées de personnes isolées.
Voire déséquilibrées,
que l'on ne peut pas prédire. Et par contre, il faut travailler sur le renseignement, au niveau européen notamment, et puis arrêter le soutien aveugle au Qatar et à l'Arabie Saoudite.
Les informés de France Info, jusqu'à 21h, à suivre l'agriculture. Nos agriculteurs pourront-ils un jour vivre de leurs revenus? A tout de suite sur France Info et de la météo et les infos. À Météo France, Sébastien Léas.
La nuit sera agitée sur un large quart sud-ouest avec des orages localement forts attendus, accompagnés par endroits de grêle et de puissantes rafales de vent. Demain matin, la perturbation pluvio-orageuse s'étendra encore sur une large moitié est. Et l'après-midi, l'Alsace, la Franche-Comté et de Rhône-Alpes jusqu'à l'intérieur provençal seront encore arrosés. À l'arrière de ce front perturbé, un ciel de traîne nuageux va se mettre en place. Les éclaircies seront timides en matinée mais prendront un peu plus de place demain après-midi, de la Bourgogne au Massif central jusqu'aux Pyrénées et aux plages de l'Aquitaine. Les averses seront plus actives et fréquente sur le nord-ouest, agrémentée de coups de tonnerre. En Corse, la journée sera bien plus calmée, ensoleillée. Les températures seront en forte baisse demain après-midi. On attend 18 à 25 degrés en général, avec encore 28 à 33 degrés sur le pourtour méditerranéen.
Merci Sébastien. Il est 20h30 sur France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Toute l'info, c'est avec Marie-Gaëtane Comte.
La crise des œufs contaminés s'étend à la France et au Royaume-Uni. 30 000 œufs et 200 tonnes d'ovoproduits contaminés au fipronil livrés en France. L'insecticide vient des Pays-Bas. Il s'agit d'une molécule utilisée pour éradiquer le pou rouge sur les poules. En grande quantité, il est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme modérément toxique pour l'homme. Des centaines de milliers d'œufs ont été retirés des supermarchés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Des millions de poules pondeuses devraient être abattues aux Pays-Bas. Christophe Lemaître s'est qualifié tout à l'heure pour les demi-finales du 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Londres en prenant la troisième place de sa série. Les demi-finales sont programmées mercredi soir. Peut-être un espoir de médaille tricolore avec Alexandra Tavernier en finale dame du marteau qui se déroule en ce moment, Vincent Pellegrini.
Et à l'instant, Alexandra Tavernier qui vient d'effectuer son deuxième essai. Le premier essai, elle l'a mordu. Donc pour l'instant, pas de référence pour Alexandra Tavernier qui, on le rappelle, avait terminé troisième des mondiaux à Pékin il y a deux ans. On va suivre son résultat parce que 66 mètres 31, c'est pas un très bon résultat. Elle est pour l'instant à la dernière place du concours. Il lui restera un essai pour essayer de terminer dans les 8 premières, puisque seules les 8 premières à l'issue des 3 essais bénéficieront de 3 essais. Donc c'est Alexandra Tavernier un peu en difficulté dans ce concours du marteau.
Vincent Pellegrini pour France Info, et à suivre aussi dans la soirée le 110 mètres et avec Garfield Darien. Le bateau anti-migrant Sestar, affrété par des militants européens de génération identitaire, n'est pas le bienvenu en Tunisie. C'est en tout cas le message envoyé par des pêcheurs du pays et par la société civile tunisienne depuis hier. Le navire dont le voyage a été financé par une levée de fonds sur Internet est parti de Djibouti et suscite l'hostilité alors qu'il voulait faire escale en Grèce ou encore à Chypre. L'Élysée précisera dans les prochains jours le rôle public de Brigitte Macron dans un document sur lequel ses services travaillent depuis plusieurs semaines. Une pétition contre le statut de première dame pour Brigitte Macron a réuni plus de 240 000 signatures en 2 semaines sur Internet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Si vous levez les yeux au ciel, vous verrez peut-être une éclipse lunaire partielle. Elle a débuté il y a 1 heure et doit se poursuivre jusqu'à 21h18. Une éclipse incomplète qui doit être particulièrement visible dans l'est de la France.
Les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info, autour de cette table ce soir, Anthony Bélanger, chroniqueur pour France Inter, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Malnuy de Technicart et Grand Seigneur, et Rachel Binas de Valeurs Actuelles. Merci à tous les quatre d'être là en plein mois d'août, mais finalement, il y a de l'actu. Aujourd'hui, Emmanuel Macron participait aux États généraux de l'alimentation, puisqu'il a reçu les syndicats agricoles. Des ateliers de travail ont lieu jusqu'à cet automne, avec cet enjeu qui est de permettre aux agriculteurs français de vivre de leur travail, avec des revenus, des prix plus que des primes. Vous voyez, moi, depuis le temps qu'on en parle finalement, des prix plus que des primes, c'est quelque chose qui est maintenant devenu un mode de fonctionnement dans l'agriculture française. Est-ce que vous pensez que ces états généraux vont permettre d'en sortir de ce système de subvention?
D'abord, c'est une promesse importante du candidat Macron.
Olivier Malnuy, oui.
Alors,
oui.
Elle trouve benoîtement son application à raison d'un rendez-vous toutes les 30 minutes aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un peu scolaire, ça va durer jusqu'en novembre.
Un peu formel. C'est le cahier des doléances.
On ne peut pas lui reprocher de petit à petit avancer sur ce qu'il avait promis. Après, la grande idée qui serait de contraindre le grand méchant de la grande distribution à arrêter cette guerre des prix absurde, ça ne marche pas. Enfin, c'est-à-dire à moins d'étatiser totalement l'économie, on n'y arrive pas. La source d'espoir, moi, je trouve, et qui peut reposer sur une volonté politique, c'est qu'à un moment, la grande distribution est elle-même malade de la guerre des prix. C'est-à-dire que c'est un poison qui la ronge, qui ronge ses marges à son tour. Or, la grande distribution
ronge ses marges, et paradoxalement, les consommateurs ne voient pas la baisse de prix.
Non,
ils ne la sentent pas.
Absolument
pas. Ils sont
pas.
Tous en train de casser les prix et de perdre de l'argent, de moins gagner d'argent et d'étouffer les fournisseurs et les agriculteurs sans que le consommateur s'en aperçoive.
C'est kafkaïen, cette histoire. Donc, officieusement, ils voudraient en sortir. Peut-être que le président peut les aider. Mais surtout, le frais, et donc le local, est plutôt qualitatif en termes de fruits, légumes et de viande, et le type de produit qui premiumise, si vous voulez, la grande distribution et qui attire les consommateurs. Aujourd'hui, la grande distribution perd des parts de marché sur les fruits et légumes par rapport aux enseignes de frais type Grand Frais ou Frais d'ici. Et même des géants comme Carrefour, aujourd'hui, innovent, c'est peut-être de la façade, mais développent des produits frais au cœur de leur magasin. Ça devient le produit d'appel.
Anthony Bélanger.
Moi j'ai juste une chose à ajouter. Je viens d'une période pas si lointaine où la France était premier exportateur mondial de produits agricoles, premier exportateur européen, c'était le champion du monde. Aujourd'hui, je constate que la France est troisième exportateur européen de produits agricoles, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas, figurez-vous, en valeur. Je trouve ça que ce pays qui est à la fois la plus grande surface, la première surface agricole d'Europe.
Non, c'est pas nous la plus grande surface agricole.
D'Europe.
Oui, enfin, oui, ok.
Oui, la plus grande surface agricole
d'Europe. Avec un grand voisin russe au port de l'Europe, quand même.
Non, mais je parle de l'Union européenne, qui avons aussi la première valeur en termes de valeur produite. On est 70 milliards, je crois, d'euros de valeur produite, alors que l'Allemagne est loin derrière à 56. On ne réussit même plus, en 15 ans de temps, on est passé de la première à la troisième place, voire la quatrième place, voire la cinquième place au niveau mondial.
Aujourd'hui, à ce stade-là, est-ce que la place est vraiment importante?
Ça montre la perte de compétitivité de l'agriculture française.
Qui
justement, il y a vraiment un énorme déséquilibre entre d'une part une agriculture qui n'est plus compétitive et d'autre part une agriculture qui n'est plus capable de nourrir ses agriculteurs.
Mais ouais, je crois que vous confondez le rôle de l'agriculture. Là, on a un problème, c'est l'agriculture ne nourrit pas correctement les Français et ne paye pas ceux qui la produisent. Ça, c'est le vrai problème. La place dans l'export, en fait, c'est pas le plus important. On a besoin d'une autonomie alimentaire, de pouvoir nourrir.
Pas un pays du Sahel non plus, hein, ça va. L'autonomie alimentaire, on peut la partager avec d'autres pays autour de nous.
Très bien, mais on a réformé la politique agricole
commune. Est-ce que c'est encore juste un enjeu, l'autonomie alimentaire? On n'est plus à la sortie de la guerre.
Ah, bah, si, justement, si. Bien sûr,
on est en Europe, si on peut la partager avec l'Espagne.
Évidemment, bien sûr. Mais alentour. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que non, mais par exemple, être entièrement dépendant de l'export, comme par exemple certains producteurs agricoles le sont à l'égard de la Russie, fait que vous êtes fragile dans votre diplomatie. Vous pouvez pas infliger des sanctions à la Russie parce que ça revient sur vos agriculteurs. Si, on en est là, mais
non, mais ils sont plus dépendants de la Russie puisque les exportations sont gelées depuis un certain temps.
Ah, bien sûr, mais il y a quand même des députés qui avaient proposé de suspendre les sanctions à l'égard de la Russie par rapport à nos agriculteurs.
Les sanctions contre la Russie.
On voit bien qu'on marche sur la tête. Là, encore, je reviens à l'intérêt de l'agriculture, c'est nourrir la population et nourrir les personnes qui produisent. Et ça, ça passe par l'agriculture bio. Il y a plus d'emplois à l'hectare, il y a une meilleure qualité de la nourriture, et aujourd'hui, on subventionne massivement l'agriculture industrielle.
La clé, c'est le bio.
La clé, c'est le bio.
Ouais.
Alors, la clé, c'est peut-être le bio, mais c'est surtout et avant tout revoir entièrement le projet que porte l'Union européenne en matière de politique agricole. Ça passera forcément par une mise à plat de la politique agricole.
Vous pensez que ces états généraux de l'alimentation, ça ne sert à rien
si
on résout pas le problème au niveau de l'Europe?
Complètement. Si régler le problème, c'est distribuer des primes, c'est qu'on n'a vraiment pas compris l'ampleur du phénomène. En 10 ans, la France a perdu un quart de ses paysans. Il y a un taux de suicide qui est énorme. En 2016, 300 paysans qui se sont suicidés. C'est bien plus que les années précédentes. Il y a une véritable crise du secteur. Et en effet, une politique agricole commune qui, en fait, qui fait primer le gros exploitant sur le plus petit, et qui en fait met le marché, la course à la compétitivité au centre de la production, il y a en effet un très gros problème. Maintenant, il faudrait qu'un politique ait le courage de s'y attaquer.
Pardon, mais la dernière décision en date, c'est la semaine dernière, il y a 10 jours, et c'est sa réorientation des aides agricoles européennes n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les grands discours sur le Grenelle de l'alimentation, sauver les agriculteurs, etc. Et dans la vérité des prix, c'est qu'on a remis des tombereaux d'argent sur les grands céréaliers qu'on n'a pas besoin.
Donc sur la quantité plutôt que la qualité.
C'est vrai. Oui, sur les gros, alors que c'est aujourd'hui les petits qu'il faut soutenir.
C'est fascinant parce que je viens de lire un article sur les propriétaires terriens en Espagne. C'est un vieux problème espagnol qui fait qu'il y a quelques milliers de propriétaires terriens qui possèdent quasiment tout le sud de l'Andalousie. Enfin, en tout cas, une partie des terres andalouses. Et je me rends compte que quand on regarde les récipiendaires de l'aide européenne, on retrouve ces vieilles familles de grande Espagne qui, depuis 4 siècles, possèdent le sud de l'Andalousie et qui reçoivent le plus d'argent de l'Union européenne. C'est vrai que vu comme ça et simplement comme ça,
c'est
une politique qu'on pourrait qualifier de conservatrice.
Les états généraux de l'alimentation, peut-on en attendre quelque chose sans un bouleversement au niveau de l'Europe? C'est la suite de notre débat désinformé de France Info. 20h40, Marie-Gaëtan Comte pour l'info.
L'explosion d'une bombe au Pakistan a blessé au moins 22 personnes dans l'est du pays. Selon un officier de police, le camion était chargé d'explosifs. Au même endroit, en juillet dernier, un kamikaze agissant sur ordre des talibans pakistanais avait tué au moins 25 personnes, dont de nombreux policiers. Le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, estime que la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie devait poursuivre ses travaux malgré la démission de Carla Del Ponte, spécialiste des crimes de guerre. L'ancienne procureure a annoncé hier son départ en affirmant être frustré face à une commission qui ne fait absolument rien. 13 lots contaminés au fipronil, livrés à 2 établissements de fabrication d'ovoproduits de la Vienne et du Maine-et-Loire au mois de juillet dernier. Pour l'un des établissements, on parle de 30 000 œufs et pour l'autre de 200 tonnes d'ovoproduits. Les œufs retirés sont suspectés de contenir ce fipronil, utilisé au mépris de la réglementation européenne pour éradiquer le pou rouge dans les élevages. Christophe Lemaître s'est qualifié pour les demi-finales du 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme de Londres. En prenant la 3e place de sa série, les demi-finales sont programmées mercredi soir.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info, Rachel Binas, Valeurs Actuelles, Olivier Malnuit, Technique Art et Grand Seigneur, Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts et Anthony Bélanger, chroniqueur pour France Inter, présent. Avec les états généraux de l'alimentation qui continuent avec des consultations qui avaient lieu encore aujourd'hui à l'Elysée entre Emmanuel Macron et les représentants agricoles, notamment Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne. Voici ce qu'il décrit, une agriculture à deux vitesses qui s'est installée en France.
Il y a trop de gens aujourd'hui dans notre pays qui n'ont pas accès à une alimentation de qualité parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les agriculteurs qui produisent de la qualité sont peu aidés par la PAC, donc on peut considérer que ce sont des agriculteurs entre guillemets pauvres en aide, ils produisent une alimentation pour les riches, et les agriculteurs qui se gavent d'aide, ils produisent une alimentation bas de gamme pour les pauvres. Donc il y a une espèce de dichotomie ici qui n'est pas acceptable.
Ceux qui touchent beaucoup d'aide font du bas de gamme, ceux qui n'en ont pas ou peu font du haut de gamme.
Mais oui, c'est la course à la production. Aujourd'hui, il faut dire, si le bio est un peu plus cher, c'est parce qu'en fait, on subventionne la bouffe de mauvaise qualité.
Le bio n'est pas assez subventionné pour pouvoir
il est de plus en plus, mais c'est pas suffisant. Il y a qu'à voir les plans quinquennaux, par exemple. Normalement, c'est vous soutenez pendant 5 ans le fait de passer, que les agriculteurs passent à bio.
Mais
c'est consommé en 2 ans.
Pas aussi
il y a un vrai attrait.
Pardon, mais est-ce que c'est pas aussi tout simplement parce que le bio est au juste prix. C'est-à-dire que quand vous regardez le lait bio, aujourd'hui les éleveurs qui produisent du lait bio sont payés, sont rémunérés au juste prix. Ils peuvent vivre de leur travail et de leur exploitation.
Et je rappelle qu'il y a plus d'emplois pour les autres. Et je rappelle qu'il y a plus d'emplois à l'hectare.
Par contre,
c'est
le lait bio est
extrêmement
important. Le lait bio est un peu plus cher.
Mais il n'est pas beaucoup subventionné. Alors qu'on subventionne via l'Europe les vaches laitières, etc. On force les agriculteurs à s'endetter avec des produits extrêmement chers et sont soumis aux banques, etc., etc. Il faut rajouter en plus des décès, les décès par cancer liés à tout l'usage des pesticides, etc. Enfin, on est en train de massacrer notre agriculture.
Le nom dit aussi, c'est que il y a des milliers d'agriculteurs qui sont plus des agriculteurs, en fait, qui sont des employés de compagnies de lait ou de compagnies d'élevage ou d'autres
et qui donc
s'ils doivent se reconvertir, auront autant de difficultés à se reconvertir que probablement des ouvriers du côté de la souterraine.
Est-ce que vous voyez dans ces états généraux de l'alimentation une raison d'espérer ?
Oui. Oui. Je veux pas jouer les macronistes.
Oui, Olivier Manuit.
Binet, mais oui, parce que ça fait des années qu'on raconte ça. Hein, et la situation est tellement grave, il y a un tel enjeu de société. Le président Macron, il a tous les défauts, mais c'est un grand opportuniste, je trouve. Et je le vois mal ne pas saisir au vent l'aubaine.
Mais vous pensez qu'il a la marge de manœuvre?
Oui.
Aujourd'hui, l'agriculture, c'est plus un problème de pays. C'est un problème qui se résout au niveau de l'Europe.
Est-ce que vous connaissez un Français aujourd'hui qui n'est pas intéressé par un produit?
Non, mais que les Français soient intéressés, oui. Mais en termes de marge de manœuvre des États européens, quelle est leur marge de manœuvre?
Ah, je pense qu'il peut faire bouger les choses à Bruxelles.
Oui. Ouais.
Alors, il y a deux choses. Il y a, en effet, on l'a vu par exemple, Stéphane Travé, notre ministre
de l'agriculture,
jouait un petit peu au vase communicant avec les crédits en expliquant qu'il allait en fait faire passer du pilier 1, qui est les crédits des aides aux hectares, au pilier 2.
Donc ceux qui produisent le plus.
Exactement, au pilier 2 de la PAC, qui est consacré au développement rural. On sait qu'en fait, c'est pas suffisant du tout. On sait également que le système européen est assez contraignant au nom justement de la libre concurrence et ne permet pas à l'État d'aider comme il le voudrait. Ces agriculteurs, un titre d'illustration, l'État ne pourra pas donner plus de 15 000 euros à un agriculteur, sinon l'Union européenne interviendra au nom justement de la libre concurrence. Ensuite, néanmoins, on voit en France, et ça c'est très important de le souligner, des initiatives qui se développent. Le bio, les AMAP, toutes ces filières, tous ces circuits courts. Il y a une véritable demande des Français. On peut aussi souligner l'initiative de la barrique de lait à 1 euro avec des consommateurs qui décident de se tourner vers les agriculteurs et ensemble d'établir...
C'est eux-mêmes qui ont créé leur propre marque.
Exactement.
Julien Bayou.
Oui, sur le Grenelle de l'alimentation, on peut faire beaucoup. L'Europe laisse faire, notamment ces deux piliers.
Vous pensez qu'il y a de la marge de manœuvre.
Notamment ces deux piliers. Mais par contre, il y a eu un refus du ministre de l'Agriculture d'aider plus amplement le bio, toujours pour garder des subventions pour les gros producteurs. Et donc, ça ne peut fonctionner que si on se heurte à des lobbies. Enfin, faut dire les mots. Vous ne pouvez pas sauver les agriculteurs producteurs de lait si vous vous attaquez pas à Lactalis. C'est
non,
pas possible.
Julien,
vous
ne pouvez pas aider. Lactalis n'est pas le fossoyeur
quand vous
de
faites,
l'agriculture.
Olivier, quand vous produisez.
Vrai,
quand,
mais bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Oh, parce que à chaque fois que
quand il y a peu d'acheteurs sur le lait sur le porc
comme ça, on s'attaque au plus gros, le plus visible, ouais. Celui qui est présent dans tous nos frigos. Lactalis fait énormément de choses pour ce pays. Effectivement, il applique des règles tarifaires de marché qui peuvent être très dures, ça mais Lactalis n'est pas le fossoyeur de l'agriculture française.
Alors vous nous emmenez sur une problématique, c'est-à-dire que la grande distribution et les industriels n'ont pas le droit de vendre à perte.
Oui.
En revanche, les agriculteurs, eux, quelque part, sont presque obligés de vendre à perte. Est-ce que le nœud du problème n'est pas là, finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire la vente à perte aussi pour les agriculteurs? J'en sais rien, moi, mais pourquoi on l'interdit pour les distributeurs?
Le kilo d'abricot, il y a deux semaines, ça coûtait 58 centimes.
Ouais.
58 centimes le kilo, à cause du télescopage des deux productions, entre la production française et espagnole. Donc, il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. 58 centimes. Et vous voulez interdire au producteur d'abricots de vendre ses abricots à 58 centimes, même s'il y perd à chaque fois qu'il en vend? Qu'est-ce qu'il allait faire de ses abricots?
Il y a bien un abus de position dominante. Ce sont des faits qualifiés. C'est des termes de droit et d'économie. Il y a un abus de position dominante de la part de Lactalis et d'autres vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et ça, c'est répréhensible. C'est à l'État de sanctionner. Et donc, c'est possible. Il faut aussi desserrer cet oligopole des centrales de distribution, qui sont que quelques-unes, je crois 4 au maximum, à pouvoir acheter les mêmes produits et donc à imposer leur prix en amont. Il y a toutes ces questions. Nicolas Sarkozy a fait un grand barouf, ça date depuis 15 ans, mais vous ne pouvez pas sauver les agriculteurs si vous attaquez pas à ces lobbies de la FNSEA, des centrales de distribution, etc.
Moi, je pense que le nom de la FNSEA mérite d'être prononcé quand même, parce que s'il y a bien un lobby en France et s'il y a bien une cogestion de l'agriculture, ça se fait depuis des années avec la FNSEA, avec laquelle on a
bien
travaillé.
C'est mal géré.
Une catastrophe.
Voilà.
Par ailleurs, il faut aussi se poser une question la question de savoir quelle production. Vous parliez tout à l'heure du télescopage des productions d'abricots en France et en Espagne. Bon, les Espagnols, on sait, produisent en quantité absolument industrielle les abricots parce qu'ils ont la terre pour ça, le soleil pour.
Et des charges en moins.
Et en plus, la tradition. Les abricots sont produits en Espagne depuis 1500 ans.
Et peut-être aussi des contraintes écologiques moindres.
Peut-être aussi des migrants qui sont exploités.
C'est l'Europe. Maintenant, est-ce qu'il faut que les Français produisent les mêmes abricots que les Espagnols, qui arrivent au même moment sur les marchés, alors qu'ils savent très bien, par anticipation, que les productions espagnoles vont s'étendre sur plus de temps, sur plus de quantité,
et avec exactement...
Pas du tout.
Non,
un abricot, c'est pas un abricot. Il y a moyen de produire des abricots différents.
On touche au cœur du problème. L'agriculture française, elle va se relancer aussi, et peut-être avec l'aide de l'État. Moi, j'aime l'État quand il aide et qu'il accompagne plus que quand il fait forcément la guerre aux méchants de la grande distribution. L'abricot, c'est pas juste un abricot. Il y a les abricots de toutes les régions.
L'abricot du Roussillon.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un label de production française locale à amplifier. Et peut-être l'aide
vous touchez un point sensible, mais les fruits français ont tendance à être de très mauvaise qualité.
Non, c'est totalement faux.
Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'on mélange à la fois des produits d'exception.
Non.
Et par ailleurs, on produit énormément de.
Je suis désolé, Anthony. C'est
produits de très mauvaise qualité. Allez sur les marchés parisiens, notamment sur les marchés français du nord de la France, où vous pouvez acheter des abricots ou des pêches made in France qui sont immangeables.
Mais c'est une très bonne nouvelle à vous annoncer.
Français immangeables.
Les états généraux de l'alimentation vont alimenter les débats pendant encore plusieurs semaines et nous aurons l'occasion d'en reparler. La suite des informés de France Info avec la Corée du Nord, la menace s'amplifie, mais toutes ces sanctions sont-elles vraiment utiles? 20h50, Marie-Gaëtane Comte pour l'info.
Deux établissements de la Vienne et du Maine-et-Loire sont concernés par ces livraisons d'œufs contaminés par l'insecticide fipronil. Des investigations sont en cours pour évaluer la situation et bloquer les produits pour les analyser, précise le ministère de l'Agriculture. Le fipronil est utilisé pour éradiquer le pou rouge dans les élevages. L'Élysée précisera dans les prochains jours le rôle public de Brigitte Macron. Une pétition contre le statut de première dame de Brigitte Macron a réuni plus de 240 000 signatures. en l'espace de 2 semaines sur Internet. Encore quelques minutes pour observer l'éclipse lunaire partielle. Elle doit se poursuivre jusqu'à 21h18, mais difficile à voir en raison de la météo. Une éclipse incomplète qui doit être particulièrement visible dans l'est de la France. Un coup d'œil sur les mondiaux de Londres. Christophe Lemaître a pris la 3e place de sa série du 200 mètres et se qualifie pour les demi-finales de mercredi soir. Parmi les autres résultats français, Melvin Raffin ne passe pas le stade des qualifications en triple saut. Jean-Marc Ponviane occupe la 9e place après son 3e essai dans la même discipline. Et Alexandra Tavernier vient de manquer son premier jet dans la finale féminine du lancer du marteau.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
La suite des informés de France Info. La Corée du Nord, sanctionnée par l'ONU pour son programme nucléaire, menace de se venger plusieurs milliers de fois. On sent une grande tension de plus en plus forte. La Corée du Nord semble déterminée à s'équiper de l'arme nucléaire. Elle multiplie les tests de missiles longue portée capables de toucher les États-Unis. Alors des sanctions ont été prononcées. François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU, explique l'enjeu.
Ces sanctions répondent à une menace qui est grave et qui est croissante. Nous sommes confrontés à une menace nucléaire mondiale, il faut en avoir conscience. Pour cette raison, notre conviction, c'est qu'on ne peut aboutir qu'à partir d'une attitude de très grande fermeté pour servir de marchepied à une option politique qui est, de notre point de vue, la seule issue possible à la crise.
C'est le 7e lot de sanctions depuis 11 ans. Est-ce que vous pensez que celles-ci vont servir à quelque chose ?
Bah oui.
Oui, pourquoi ?
Oui, bah, tout simplement parce que la Corée du Nord n'exporte rien. Elle exporte simplement pour 3 milliards de dollars de produits divers et variés, mais surtout des exportations de type primaire, c'est-à-dire
du fer. Des crustacés, je crois.
Oui, enfin, et surtout du charbon.
Et de la drogue.
Mais ça, c'est une autre affaire.
Et ça, c'est pas dans les sanctions.
Ça, c'est une autre affaire.
C'est difficile.
De la drogue et des esclaves.
Et aussi des virus informatiques.
Et des virus informatiques. Et aussi des statues en Afrique.
Et pourquoi celle-ci aurait un impact alors ?
Parce que l'essentiel des exportations, que les exportations sérieuses de la Corée du Nord, c'est du charbon à direction de la Chine. Que la Chine, jusqu'à présent, qui suit, contrairement à ce qu'on dit, toutes les sanctions, mais c'était arrangé pour avoir des alinéas B qui lui permettent quand même d'acheter du charbon nord-coréen. Non pas parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle maintenait à bout de bras le régime nord-coréen. Là, elle a décidé que c'était trop ennuyeux.
La différence, c'est que la Chine, aujourd'hui, ne suit plus.
Moi, je ne suis pas un expert, mais ce que je comprends, c'est que toute la différence, c'est que la Chine, la Russie, et les États-Unis se retrouvent pour soutenir ces sanctions. Et
ça fait toute la différence. Hein.
Ça fait ça peut-être pourvu d'être
suivi. Ce que je veux dire, c'est que
là, on parle d'un tiers du budget de la Corée
oui,
et du
tout
Nord.
À fait.
C'est le type de sanctions qui avait permis d'arriver à un accord avec l'Iran.
Avec l'Iran,
enfin. Le fait
que finalement,
la Chine,
c'est pareil,
le Conseil de sécurité arrive à un accord.
On disait à chaque fois, mais encore des sanctions, parce qu'à un moment, ça va vraiment craquer. Et finalement, ça va craquer.
Le problème, c'est le Conseil de sécurité.
Ça a été repoussé à moyen et long terme.
Quoi donc?
Mais pour l'Iran, bien sûr que
je sens qu'on va toucher un point sensible là avec l'Iran. L'Iran,
non, pas
ça
du
a
tout.
Très
par contre, je vais juste terminer en fait parce que j'ai commencé.
Ouais. Vas-y.
Mais avec l'Iran, ça n'a pas fonctionné réellement. En fait, on a juste décalé le problème. C'est-à-dire que ça se fera à moyen et long terme. En fait, Donald Trump a joué un petit peu. C'est un petit peu piégé avec une espèce de dialectique.
Avec la Corée du Nord.
Celle de la ligne rouge, exactement.
Ouais.
Celle de la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Aujourd'hui, donc, certes,
la Corée l'a franchi.
Exactement.
Avec des missiles.
Voilà. Alors, Pékin, c'est normal. La Chine a toujours été un petit peu l'intermédiaire dans cette zone entre la Corée du Nord les États-Unis. C'est normal. Alors, certes, ils ont expliqué qu'ils suivraient l'embargo, mais je crois qu'ils se sont opposés à l'embargo sur le pétrole.
Sans grande surprise. Il y a quasiment pas de pétrole, enfin,
maintenant, il y a fort à parier que la Corée du Nord va continuer
ils se sont opposés aux importations de pétrole. C'est-à-dire qu'il y avait un embargo sur les importations nord-coréennes de pétrole, pas sur les exportations. Maintenant, la Corée du Nord a besoin de cet argent pour pouvoir continuer à avoir un budget militaire. Je rappelle que quand même un quart de son budget national, à la moitié, est consacré à l'armement. C'est quand même ahurissant. C'est le pays qui consacre le plus d'argent à son programme nucléaire, à son programme militaire au monde. Maintenant, quand vous disiez que ça marche pas sur l'Iran, en fait, ça marche sur tous les pays qui ont une seule chose à exporter. C'est le cas de l'Iran qui a une chose à exporter, ou deux, avec le pétrole et le gaz. C'est le cas de la Corée du Nord qui a très peu de choses à exporter, et surtout du charbon. C'est le cas avec notamment le Venezuela. Si on voulait que le régime tombe, eh bien, il suffirait d'un embargo
pétrolier. Jusqu'à présent, ça marche pas, sur la Corée du Nord.
Mais ça, mais bien sûr que si, parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des, comment dire, des sanctions adjacentes. Quand on essaye quand même de négocier avec un régime, on essaye quand même de garder des cartouches, de voir jusqu'où il peut aller trop loin. On lui dit, écoutez, et jusqu'à présent, ça fait 10 ans qu'effectivement, la Corée du Nord
nous met en bas. Une provocation de la Corée du Nord? Après ça, parce que la particularité quand même de la Corée du Nord par rapport à l'Iran, c'est qu'il y a quand même un dictateur fou à sa tête.
Non, c'est pas. D'abord, il n'est pas fou. Il calcule. Il sait très bien qu'il a d'une part des missiles et d'autre part une bombe atomique. Mais votre bombe atomique, la bombe atomique qu'il a pour l'instant, est de la taille de votre cuisine. Donc le temps de la mettre sur le missile, il faudra quand même entre 5 à 10 ans, et probablement plus de 10 ans. Donc pour l'instant, il essaye de jouer les deux en expliquant qu'il a le vecteur, qu'il a la bombe de part et d'autre, et qu'il essaye de réunir les deux. On a devant nous entre 5 à 10 ans pour négocier. Il faut donc les contraindre dans ces 5 à 10 ans à venir à la table des négociations. Je rappelle quand même que ces exportations ne profitent absolument pas aux Nord-Coréens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'affamer les Nord-Coréens qui, de toute façon, reçoivent de l'aide alimentaire mondiale tous les ans.
Je crois que ce qui se joue dans ces sanctions de l'ONU, c'est le virage qu'a pris la Chine. La Chine vraiment.
C'est ça le truc.
Applique, comme elle dit, 100% des sanctions prévues. Effectivement, ça peut tout changer. Je doute un peu de la sincérité du message, quand même, puisque la presse chinoise en sous-main dit un peu le contraire.
La Corée du Nord a toujours détesté n'avoir qu'un seul interlocuteur. Pour l'instant, elle n'a que la Chine. Et ce qui est assez remarquable, c'est que la Russie se soit liée avec la Chine sur l'affaire. La Corée du Nord a toujours joué la Chine contre la Russie. Là, c'est pavlovien. La Russie s'est alignée sur la Chine. Et si vraiment la Chine applique cet embargo, que par ailleurs, elle applique déjà, c'est-à-dire que ça fait 6 mois que la Chine n'importe plus de charbon nord-coréen. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les Chinois en ont assez eux aussi. Ils trouvent qu'ils ont assez de problèmes.
Et puis, probablement que les Chinois redoutent aussi une intervention américaine déstabiliserait la région.
Je pense pas. Je pense qu'ils en ont assez.
Le problème de la Corée du Nord, c'est que Donald Trump, il n'a pas envie de faire la guerre avec la Corée du Nord. Vous avez 1 million d'hommes actifs dans l'armée nord-coréenne. J'ai plus 5 millions de réservistes. C'est un pays qui est totalement galvanisé.
Je vais vous dire, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que Séoul est à même pas 100 km de la frontière nord-coréenne. C'est qu'ils n'ont même pas besoin de missiles, de nucléaire pour détruire Séoul. Ils ont besoin d'orgue d'Astaline un petit peu amélioré. Ce qu'ils ont.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans Les Informés. Anthony Bélanger, Julien Bayou, Olivier Malnuit. Alors Olivier Malnuit, la une de Grand Seigneur.
Oui.
C'est donc...
Le terroir, c'est la France. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Natacha Polony.
Et c'est donc dans les kiosques dans quelques jours.
C'est vendredi.
Cette semaine.
Vendredi.
Et Rachel Binas, avec Valeurs Actuelles.
On sera en kiosque jeudi.
Avec la une, vous le savez déjà?
Alors la une, non, on ne l'a pas encore.
Pas encore?
Non.
Bon, ça vous a inspiré peut-être pour ce soir?
Alors, on boucle entre ce soir et demain soir.
C'est un peu tard. Merci à tous les quatre d'être venus dans Les Informés de France Info. Très bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 20h.